Deuxième partie. Le petit grain de sable orgueilleux et amoureux. Un jour, maman annonça à Corentin qu'il partait pour le week-end en pique-nique à la plage. Corentin annonça donc à la chambre qu'il ne serait pas là pendant 2 jours.
« À la plage !» s'écria Sandy. « Corentin, il faut que tu m'emmènes !»«
Sandy, » répondit Corentin, « j'y vais pour m'amuser. »
« Je ne dirai rien. Je veux juste voir mes ancêtres des bords de mer et leur raconter ce que nous sommes devenus, nous, les immigrés des bacs à sable urbains. Et puis, pour changer le monde, il faut aussi que je change un peu d'air. »
« Là, tu as raison, Sandy. Va plutôt appeler à la grève sur la plage que dans ma chambre. Et qui sait, tu rencontreras peut-être quelqu'un en te promenant un peu. Quand je t'ai connu, tu avais 2 ambitions, et la première était de trouver l'amour. »
« Tu crois que... »
Tu vieillis, Sandy, je t'assure, il faut te dépêcher. » Il disait cela pour redonner un peu de gaieté à la chambre, sachant que l'amour rendait fou même les plus sages. Il ne croyait pas si bien dire. Ils roulèrent jusqu'à la mer et s'arrêtèrent juste avant la plage. Ils s'installèrent au bord d'un petit coin de pinède que maman trouva charmant pour pique-niquer. Le charme du coin, c'était surtout une petite rivière qui coulait là, entre quelques rochers, s'amusant à serpenter un peu avant de rejoindre la mer. Ils déjeunèrent et siestèrent. Sandy pensait. Puisqu'il ne semblait pas vraiment penser à refaire le monde, c'est donc qu'il pensa à l'amour. Depuis un certain temps, Sandy observait la rivière. Plus précisément, il observait une goutte d'eau qui se reposait sur un petit caillou lisse et blanc surplombant le ruisseau. Sandy se rapprocha et s'adressa à la goutte d'eau.
« Mademoiselle, je vous aime. »
Corentin se réveilla et bâilla.
« Je vous aime, »
répéta Sandy.
« J'aime votre éclat. J'aime vous voir si transparente et pourtant si étincelante, si douce et si vive à la fois. »
La jeune goutte d'eau aimait la vie. Elle répondit à la déclaration de Sandy par un large sourire.
« Une déclaration? C'est si rare, si agréable, tant de compliments !»
Elle partit dans un grand éclat de rire.
« Merci, monsieur, pour cette déclaration qui doit rendre jalouse un bon nombre de mes sœurs. Merci, mais hélas, je ne suis qu'une goutte d'eau qui passe, qui coule. Ma vie, c'est courir dans la rivière, y jouer, y rire. Je ne me sens bien qu'au milieu de la multitude de mes jumelles. Je ne me sens vivante qu'à travers elles. Je ne dis pas que votre proposition d'amour n'est pas tentante, mais hors du torrent, je ne survivrai pas. Je me dessécherai. Je mourrai. D'ailleurs, je suis déjà demeuré un peu trop de temps sur ce caillou. Il est brûlant. Au revoir et merci. Merci du fond du cœur pour le souvenir que j'emporte grâce à vous. »
Elle ajouta en plongeant dans la rivière avec un rire cristallin.
« Et pourquoi moi? Il y en a des milliers d'autres comme moi. »« Non, vous êtes unique !»
hurla Sandy, mais c'était peine perdue. Corentin tenta de le consoler. Elle était trop gaie, trop insouciante.
« Tu es trop sérieux, » dit Corentin. « Vous vous seriez ennuyé. » Non, jeune homme, le sérieux n'a rien à voir là-dedans. Je ne suis qu'un grain de sable petit et laid. Et l'on ne tombe pas amoureux des gens petits et laids. C'est comme cela, depuis toujours. »
Pour se changer les idées, maman, Corentin et Sandy franchirent les 100 mètres qui séparaient la rivière de la plage. Sandy fut déçu. Il ne découvrit que des galets. Néanmoins, comme la mer était basse, on devinait au loin une bande de sable brun mouillé sur laquelle s'étaient échoués des milliers de coquillages microscopiques. Corentin ôta ses chaussures et emmena Sandy voir la mer de plus près. Corentin s'arrêta une minute, les pieds dans l'eau, à regarder l'écume venir mourir sur la grève. Sandy, lui, restait en admiration devant les coquillages et devant une coque en particulier. Elle était échouée un peu à l'écart des autres, blanche, sans impureté. Malgré sa taille minuscule, ses rayures se dessinaient avec une parfaite régularité, telle une miniature peinte avec une infinie précision à partir d'un modèle géant. Sandy se rapprocha.
« Mademoiselle, je vous aime !»
Corentin se mordit les lèvres.
« Je vous aime !»
répéta Sandy.
« J'aime votre blancheur immaculée, et j'aime vos rides dorées. J'aime votre parfum salé d'île déserte, votre parfum sucré de lune de miel. Filons, partons tous les deux !»«
Pourquoi ?» demanda la coque nacrée. « Pourquoi faire ? Pourquoi fuir ? Ma vie est réglée par la marée, le flux, puis le reflux, puis le flux, puis le reflux. Toute la semaine, je vais, je repars. Le week-end aussi, mais ce n'est pas pareil, on voit davantage de monde. Puis tout recommence, le flux, le reflux. C'est une vie bien organisée. À quoi me servirait un grain de sable, sinon à tout dérégler ?
Mais à tout dérégler, justement ! Je vous sens lasse d'une telle routine, et si vous ne l'êtes pas encore, vous le serez un jour.
Peut-être, mais quand je serai trop fatigué, je me reposerai. Je m'accrocherai à un rocher en savourant ce repos bien mérité. En attendant, je continue de suivre la lame des vagues, sans vague à l'âme. Oh, croyez-moi, le tournis perpétuel vous empêche de penser à ça.
Le reflux l'emporta. Recouverte d'écume, elle prit le temps de crier.
« Et pourquoi moi ? Il y en a des milliers d'autres comme moi. Non, vous êtes unique !»
hurla Sandy, mais c'était peine perdue.
Corentin tenta de le consoler.
Elle manquait d'imagination, n'avait aucun goût pour l'aventure.
« Tu es trop rêveur, tu te serais ennuyé. »
« Non, jeune homme, le rêve n'a rien à voir là-dedans. Je suis petit et laid, et l'on ne tombe pas amoureux des gens petits et laids. C'est comme cela, depuis toujours. »
Pour se changer les idées, Corentin proposa à Sandy de s'éloigner un peu de la plage. Ils suivirent un chemin qui montait, puis longeait la falaise, commençant par un petit escalier de pierre et se prolongeant en un sentier de terre. Corentin grimpa vite et se reposa quelques instants en haut de la falaise, essoufflé. Le chemin devenait de plus en plus étroit. À droite, on ne pouvait guère s'aventurer, pour cause de précipices. La majorité des piétons suivaient donc sagement ce sentier baptisé « chemin des douaniers », en tournant parfois la tête, obéissant, pour surveiller la mer. À gauche, on ne pouvait pas davantage jouer aux contrebandiers, pour cause de clôtures grillagées, interdisant de marcher sur l'herbe rase et verte d'un immense golfe vallonné. La ligne barbelée se dressait en ligne de démarcation. Côté chemin, les herbes folles, ébouriffées. De l'autre, une pelouse égale, idéale. Côté chemin, les creux et bosses, les montées essoufflantes et les descentes glissantes. De l'autre, la douceur des formes et la rondeur des courbes. Côté chemin, la foule qui se croise, qui se bouscule ou qui se tasse poliment sur le bord. De l'autre, personne, enfin, sans doute quelqu'un de temps en temps, mais que l'on ne voit jamais, à moins de le traquer longtemps du regard. Punaisés au barbelé, du mauvais côté, les promeneurs attendaient donc de voir le golfeur comme on attend de voir un oiseau rare, en ouvrant de gros yeux blancs et ronds comme des balles. Surtout les enfants. Corentin en fit autant. Sandy s'ennuya rapidement. Au bout d'une minute, il fixa son regard sur une herbe, proche du grillage. Une herbe un peu plus haute que ses voisines, toutes rigoureusement rasées à la même taille. Le vent profitait de ces quelques millimètres de différence pour faire danser seul ce joli brin. Sandy se rapprocha.
« Mademoiselle, je vous aime !»
Corentin soupira.
« Je vous aime. J'aime que vous soyez debout quand toutes les autres herbes se courbent. J'aime que vous dansiez quand toutes les autres herbes se couchent. »
L'herbe se retourna et se redressa encore. Elle donnait l'impression, un peu comme les girafes, de vouloir tendre au maximum son cou afin de pouvoir regarder son interlocuteur de haut.
« Qui êtes-vous ? Je vous distingue mal. »
Elle localisa enfin la voix de Sandy, perchée derrière le grillage. Les herbes possèdent une vue bien plus perçante que les humains.
« Mais, vous êtes de l'autre côté du grillage ? Quelle audace ! Nous n'avons pas le droit de communiquer avec ceux de l'autre côté. Et pourquoi croyez-vous qu'il existe une barrière entre nous et toutes ces herbes sur le chemin, piétinées et fripées, ordinaires et vulgaires ? Il y a les bonnes et les mauvaises herbes. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'expression.
Je ne suis d'aucun côté, mademoiselle. Je ne suis que le jouet du vent. Je suis un grain de sable que seul le destin a mené vers vous. »
Un grain de sable ? C'est un comble. Le sable est interdit sur le green. C'est formellement interdit par le règlement.
Le règlement ? Qui parle de règlement quand je vous parle d'amour ? Et quel mal ferait à un green un seul malheureux grain de sable ?
Et si chaque herbe ici laissait entrer un grain de sable, un seul, par amour, le green ne serait bientôt plus qu'un bunker.
Excusez-moi, j'ai affaire.
Je vous ai déjà accordé plus d'attention qu'il n'est raisonnable. Nous attendons un couple de joueurs d'une minute à l'autre.
Et puis, mon Dieu, pourquoi moi ? Il y en a des milliers d'autres comme moi. Non ! Vous êtes unique !
Hurla Sandy. Mais c'était peine perdue. Corentin tenta encore de le consoler. Elle était trop snob, trop fière.
« Tu es trop révoltée, »
dit Corentin.
« Tu lui aurais attiré des ennuis. »«
Non, jeune homme, la révolution n'a rien à voir là-dedans. Je suis petit et laid, et l'on ne tombe pas amoureux des gens petits et laids. C'est comme ça, depuis toujours. »
Ils redescendirent sur la plage en contournant le golfe. Au pied de la falaise, ils s'arrêtèrent, surpris. La falaise prenait naissance en une énorme dune de sable. Haute de plusieurs mètres, la dune étincelait de milliers de grains de sable fin, blancs, comme des étoiles rangées là pendant la journée. Ils s'installèrent afin que Sandy ait de la compagnie. Sandy avait l'air triste. Bien sûr, Corentin ne pouvait pas distinguer ses larmes, mais il avait appris à le connaître.
« Connais-tu la légende du premier grain de sable ?»
demanda soudain Sandy.
« Non, tu sais, je n'ai pas connu beaucoup de grains de sable à part toi.
« C'est une vieille et étrange légende. Le premier grain de sable n'avait rien de commun avec nous, hormis le sable. Il était énorme, de la taille d'une planète, mais en moins rond, de la taille d'une météorite géante, si tu veux. Il était fort, puissant, craint, mais seul. Il s'ennuyait. Alors, il demanda à Dieu, ou à un dieu, enfin à la personne qui régnait sur les météorites à cette époque, de lui accorder une faveur, le pouvoir de partager sa vie en deux. Le grain de sable ne lui avait jamais rien demandé. Aussi, le dieu accepta. Le grain de sable reçut donc comme don de la nature le pouvoir de partager sa vie en deux, comme les oiseaux ont reçu le pouvoir de voler, les poissons celui de nager. Lorsque le grain de sable se partagea en deux, il devint alors deux fois moins grand, deux fois moins fort, deux fois moins craint. Mais il n'était plus seul. Il avait en face de lui une moitié de lui-même qui lui ressemblait, qui avait les mêmes goûts, qui riait des mêmes choses, le grand amour. Le premier grain de sable ne regrettait rien. Mais aucun amour, aussi grand soit-il, n'est éternel. Petit à petit, la seconde moitié du premier grain de sable commença à s'ennuyer. Malgré leur extraordinaire ressemblance, il existait quelques toutes petites différences qui devinrent des gouffres avec les années, avec les milliers d'années. La seconde moitié eut alors une idée. Chaque grain possédant comme don de la nature de pouvoir se partager en deux, elle possédait donc aussi ce don. Elle ne résista pas au désir de découvrir une moitié d'elle-même, qui lui ressemblerait trait pour trait, un miroir avec qui elle pourrait à nouveau vivre le grand amour. Elle se partagea son tour en deux et devint deux fois moins grande, deux fois moins forte, deux fois moins crainte, mais put aimer de tout son cœur un être qui enfin lui ressemblait en tout point.
le premier grain de sable délaissé demeura seul, triste. Un grain de sable ne pouvait se partager qu'une seule fois en deux, et sa moitié l'avait abandonné. Tu te doutes peut-être de la suite. L'amour entre les deux nouveaux grains de sable un jour se fana, et la moitié la plus récemment créée décida à son tour de se partager en deux, pour aimer à nouveau une moitié qui lui ressemblait en tout point, quitte à devenir deux fois moins grande, deux fois moins crainte, et ainsi de suite. Tu as sans doute deviné les conséquences de ce pouvoir particulier des grains de sable, sur une durée de plusieurs milliards d'années. En se divisant toujours par deux, deux géants, les grains de sable sont devenus petits, minuscules, microscopiques, insignifiants, ridicules. Tout cela par amour et par égoïsme. Les milliards de grains de sable dans le monde sont seuls, tristes, parce qu'ils ont été un jour abandonnés par leur moitié. Mais parmi ces milliards, quelque part, existent deux grains de sable qui s'aiment, d'un amour éphémère avant qu'ils ne se séparent, mais qui s'aiment. Il existe toujours quelque part deux grains de sable qui s'aiment.
Et des milliards de grains de sable malheureux, ajouta Corentin.
Oui, tu comprends maintenant pourquoi nous sommes si insignifiants au regard des autres. Nous en sommes les uniques responsables.
Mais toi alors, Sandy, tu as donc déjà été aimé, et tu as donc déjà aimé une fois, comme chaque grain de sable.
Peut-être, Corentin, peut-être, jadis, tu sais, ce n'est qu'une légende.
Maman les rejoignit à cet instant. Sandy et Corentin restèrent silencieux. « Tu vas quand même aller te baigner un peu, » insista maman. Corentin ne put refuser. Il installa Sandy sur un grand piquet de bois enfoncé à la base de la dune. Le sommet du piquet était peint en rouge.
« Sois sage, » lui glissa en partant Corentin.
« Sage comme un enfant ou sage comme un vieux philosophe ?»«
Les deux. »
Corentin courut à contre-cœur vers l'eau froide, sale et salée. Sandy observa un instant Corentin s'éloigner. Puis, sans hésitation, il s'adressa à la foule des grains de sable qui s'entassaient devant lui dans la dune. Perché, il commença à passer sa colère sur cette congère de congénères.
« Vous êtes des millions à former cette dune, et que faites-vous de votre vie ? Immobile, inutile ! À moi seul, je suis plus puissant qu'un million d'entre vous !»
En face, les grains de sable étaient surpris. Ils s'étonnaient d'entendre un grain de sable savant. Ils n'en avaient encore jamais rencontré. De même, l'accent de Sandy les intriguait. Un accent de la ville. La ville, qu'est-ce qu'une ville ? Encouragé, Sandy s'enhardit. Il parla de ses frères dont on faisait un véritable commerce sur les chantiers, dans les mines, pour les faire ensuite disparaître en ciment. Il parla du mépris des humains, de l'eau, des coquillages, de l'herbe, de tous les autres. Un grain de sable qui a vécu toute sa vie sur la même plage, dans la même dune, au pied de la même falaise, n'est pas bien malin. Il est prêt à croire le premier grain de sable soufflé sur son chemin. Lorsque Sandy lança son appel, ils le suivirent, ils lui obéirent. Le grain de folie se mua en vent de folie. Toutes les tragédies en ce monde sont provoquées par manque d'amour.
« Seuls, nous ne sommes rien !»
continuait de crier Sandy.
« Ensemble, nous serons craints, enfin ! Il nous suffit de tous prendre le vent ensemble pour devenir une tornade !»
Sandy laissa planer quelques instants le lourd silence qui, comme on le dit, précède toujours la tempête. Puis il lança tout ce qui lui restait de voix.
« Maintenant !»
Alors la dune se mit à trembler. Pour un observateur extérieur, il n'y avait pourtant aucun courant d'air particulier. La dune, petit à petit, se mit à bouger. Les touristes qui dormaient là, qui bronzaient là, qui se baignaient là, décampèrent, dont maman qui rattrapa au col Corentin qui remontait en grelottant. Alors la dune se mit en marche. Les témoins eurent l'impression d'un nuage de sable,
comme on en rencontre les jours de grand vent. Le nuage tourbillonna plusieurs longues minutes, peut-être une demi-heure. Quand le ciel de nouveau s'éclaircit, la taille de la dune avait diminué de moitié. La plage entière était recouverte de sable. On n'apercevait plus ni galets ni coquillages. L'écume venait s'enliser dans les épaisses couches de vase. La route qui menait à la plage était également ensablée, ainsi que les commerces les plus proches. Le nuage s'était étendu jusqu'à la petite rivière à une centaine de mètres. Curieusement, la tempête s'y était arrêtée, mais le cours d'eau n'était plus qu'un torrent de boue. Enfin, la dune n'avait pas épargné le golfe privé. Le 18e trou, celui qui n'est séparé de la falaise que par un mince grillage, n'était plus qu'un immense désert. Une fois la tempête passée, Corentin se précipita vers le poteau où il avait laissé Sandy. Il raconta à maman qu'il avait oublié sa serviette. C'était vrai d'ailleurs. Quand il arriva, le poteau avait disparu lui aussi, recouvert par la multitude des grains de sable. Corentin creusa et distingua bientôt la marque rouge du sommet du poteau. Mais pas Sandy. Sandy ? Appela-t-il. Des milliers de voix lui répondirent en chœur. C'est moi ! Et pas une de ces voix ne ressemblait à celle de Sandy. Chaque grain de sable avait pris goût à la liberté et s'était donné un prénom. Celui de Sandy n'était pas le plus original sur la plage. Des milliers semblaient désormais se prénommer ainsi. Corentin creusa et appela un millier de fois son ami. Il appela, mais c'était peine perdue. Corentin finit par retrouver sa serviette, mais il s'en moquait. Dans la voiture du retour, Corentin faisait tourner le manège de ses pensées. Sandy ne l'avait peut-être pas entendu. Perdu parmi les milliers d'autres grains, cela se pouvait. Mais Corentin ne le croyait pas. Sandy avait choisi de rester parmi les siens, anonyme, pour oublier les gouttes, les coques, les herbes et les livres. Parce que l'on n'est jamais que ce que l'on est, parce que les grains de sable minuscules ne sont pas nés pour être funambules sur le fil de la ligne droite qui les mène au rêve. S'ils tombent, ils passent à travers les mailles du filet de sécurité. Le soir, Corentin était allongé sur le lit de sa chambre quand maman l'appela.
« Viens voir, Corentin, ils en parlent à la télé. »
En effet, on parlait à la télévision de la tempête de sable. Une caméra se promenait sur la plage, puis de la plage à la rivière, puis de la rivière au golfe. Des experts déclarèrent que ce type d'événement était absolument imprévisible, comme certaines crues ou certains tremblements de terre. D'autres, au contraire, prétendirent expliquer ce phénomène physique et le démontrèrent en se lançant dans des théories compliquées. Ils conclurent en désignant ce qui restait de la dune et en disant « La preuve !» puis se plaignirent de ce que l'on n'écoute jamais les scientifiques avant les catastrophes et du manque d'argent dans leurs laboratoires. Ensuite, des baigneurs témoignèrent, les yeux encore rouges. Des commerçants manifestèrent. Les journalistes terminèrent en insistant longuement sur le mystère. Les météorologues n'avaient noté aucune pointe particulière de vent. Corentin demanda à maman d'enregistrer l'émission. Fier. C'était la première fois qu'il avait un ami célèbre. Un ami qui passait à la télé.